vaut mieux être sourd que d'entendre ça.
Nous allons parler bande dessinée, je suis en compagnie de l'école du crayon de bois. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bienvenue donc dans cette émission pour nous parler de cette association qui, je crois, remonte. Moi, en recherchant dans mes mails, j'ai découvert 2014.
C'est ça, c'est 2014. On a lancé l'association. Donc c'est plusieurs personnes qui avaient envie en fait de réunir un peu tous les talents autour de la bande dessinée. Qu'il y avait sur le territoire, et il y en a même beaucoup. Et voilà, donc on a fait appel à trois professionnels, et maintenant il y en a quatre qui encadrent des ateliers avec jeunes, ados, adultes. Voilà.
Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces différents dessinateurs professionnels, vous pouvez faire découvrir les différents styles de la BD, classique, française, belge, la BD en mode comics et BD en mode manga.
Voilà, mais au final, on fait tous les trois la même chose, et effectivement, on a eu besoin de mettre un peu une étiquette pour que les gens puissent un peu identifier ce qu'ils voulaient faire. Et puis, au final, on fait tous les trois la même chose, c'est juste quelques codes qui diffèrent, alors surtout beaucoup dans tout ce qui est... dans tout ce qui est manga, parce que il y a des traits de vitesse, des choses comme ça, qui a un langage bien spécifique, mais sinon on fait tous les quatre, de la bande dessinée. Voilà.
Et est-ce que les styles évoluent si on parle des comics ou si on parle des BD mode manga, donc en dessin japonais, est-ce qu'il y a une évolution dans le dessin? Parce que j'ai l'impression que la BD franco-belge a une éthique, un cahier des charges.
Il avait défini. Envie de dire la BD à papy.
non, c'est pas ça. Non, mais c'est une question.
Non, tout à fait. Mais en fait, ce qui est assez marrant, après nous, c'est aussi la vision qu'on en a en tant que consommateur de bande dessinée.
Oui.
Il y a le fameux format franco-belge qui est un format cartonné qui est assez grand, qu'on connaît tous, c'est les aventures de Tintin, les choses comme ça. Ensuite, quand on va vers le comics, on a un format un petit peu plus petit, mais un peu plus chargé en pages. Et puis là, on a le manga qui, lui, est carrément plus petit. Et là, on est sur un format un peu les livres folio poche que vous aviez. Et là, par contre, on a du 400 pages, c'est pas les mêmes cadrages. Il n'y a pas de couleur, c'est...
Le sens de lecture change.
Le sens de lecture change, effectivement. Enfin, voilà, il y a plein de spécificités qu'on retrouve dans chacun des styles. Mais au final, la bande dessinée, c'est un média qui n'a pas fini de montrer tout ce qu'il savait faire encore. Là, il n'y a pas longtemps, là, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le turbo-média. Alors, je ne sais pas si tu connais.
Pas du tout.
Mais en gros, c'est de la bande dessinée. En fait, tu vas prendre les cases de la bande dessinée et tu vas les agencer comme si tu faisais un storyboard de film, en fait. Donc, en fait, elles vont apparaître les unes après les autres. Et là, on n'est plus dans un dynamisme où tu as une planche complète que tu lis, mais on est dans une succession de cases. Et ce qui fait que ça donne du rythme. On n'est plus du tout dans la même situation, et on peut même animer quelques cases. Alors il y a de ça très 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 longtemps, je dis ça, il y a de ça 10 ans, quand Internet est arrivé, tout le monde a essayé de se dire c'était un bon format pour faire de la BD, il y avait quelque chose à faire. On a tourné autour, on a fait des planches toutes prêtes à lire, mais c'était pas le pied. Et là, le turbo média, on a un vrai média qui se démarque de ce que pouvait être la BD sur Internet avant. Et nous, on a une BD là qui va bientôt être adaptée en turbo média, mais j'aurai l'occasion
d'en reparler. Et quel est le format de ce turbo média?
Eh ben, en fait, on est sur un format qu'on peut lire sur un téléphone, qu'on peut lire sur un ordinateur. C'est un format fond d'écran, en fait. Okay. Sauf que les cases, elles vont apparaître. Il y aura pas forcément quelque chose autour de la case, mais elle va apparaître successivement l'une par-dessus l'autre.
Ok, parce que c'est aussi ce qui est très développé au niveau de la com sur Instagram. Par exemple, je pense aux stories et aux BD qui sont très courtes, en quelques images.
Là, on est sur un format strip qui était tout ce qui était Garfield. Alors, je prends Garfield parce que tout le monde voit ce que c'est.
Ouais, effectivement.
On est sur une succession de cases, donc ce qu'on appelle les strips, où on fait un gag en 3-4 cases. Garfield arrive, il a faim, il marche sur le chien, et puis le chien est pas content, et puis
il
fait une mauvaise blague. Là, je l'ai fait vraiment, je l'ai traduit vraiment de façon très très rapide. Mais l'idée c'est ça. Oui, sur Instagram, on a beaucoup de petites BD. On est plus sur de la BD du quotidien ou des choses comme ça, du ressenti. Il y a de plus en plus d'expériences BD où on essaie de pousser le récit un petit peu plus loin, justement. Alors sur Instagram, il y a plein de choses, en fait. C'est ça.
Moi j'ai l'exemple, c'est un exemple qui m'a marqué, c'était Arte qui nous proposait une BD tout au long de l'été.
Tout à fait.
Et tous les jours on avait un petit épisode. On pouvait suivre les aventures du couple.
Et là on est pas mal sur là on est presque sur du turbo média, parce qu'en fait quand on sweep,
Oui, on sweep, ouais.
C'est la même action qu'effectivement uniquement si on tournait les pages, sauf que là on tourne une case, et là on peut jouer justement sur des effets de zoom ou dézoom. On est sur des on est sur des concepts assez intéressants où on peut même allonger la case sur Instagram. On peut faire une longue case qu'on peut sweeper et on peut donner une impression en fait de vitesse ou de projection. Ça c'est aussi possible.
Et avec quelques formes d'animation, effectivement, comme des images en GIF,
de la pluie qui tombe, de la lumière qui se crée. Enfin, il y a tout un. Enfin, ça vaut vraiment le coup d'aller creuser parce qu'effectivement, Arte a fait pas mal de trucs autour de ça, la fameuse BD de l'été. Et ils font aussi un petit format là qui est un peu plus en BD animé, on va dire, où ils reproduisent des scènes de films. Alors, ça, je sais pas si t'as vu. Je te passerai le lien à l'occasion, c'est pas mal du tout.
Si, j'ai cru voir ça parce qu'ils ont fait une spéciale il y a 15 jours.
Il y a eu Blade Runner, il y a eu plein d'adaptations.
Ah
comme
oui,
ça,
c'est ça. Ben oui, ils ont fait des super dessins.
Ils ont fait des super trucs.
Terminator, tout
et là,
ça.
Là, voilà, exactement. Et là, on est sur un truc un peu hybride pour le coup. Mais finalement, la bande dessinée, le cinéma, c'est un peu le même combat. Hein. Il y a un storyboard à la base, c'est juste que pour le coup, l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on a une feuille blanche et qu'on peut créer carrément un univers. Au cinéma, là, il faut un petit peu plus de moyens pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué.
Dans tous les cas, la BD. Oui, dans tous les cas, la BD se porte très bien et il suffit juste de rentrer dans un magasin et de voir le nombre de nouveautés qu'il y a
tout à fait.
En France, concernant la BD française, mais également donc la BD étrangère.
Oui, et puis c'est marrant. Dingue,
ça ne s'arrête pas.
C'est marrant parce que ça me rappelle un peu la grande époque du CD. Où il y avait par exemple le rayon jazz se rétrécissait de plus en plus, et ben là c'est le rayon manga qui s'agrandit de plus en plus, le rayon comics aussi est de plus en plus présent, le franco-belge j'ai l'impression qu'il est un peu entre les deux en ce moment, mais c'est un bon moyen de voir une tendance, d'aller dans une librairie pour voir les étalages effectivement et se rendre compte de ce qui marche, de ce qui marche pas.
Voilà. Moi qui suis plus amateur de BD américaine, je sais que j'ai un peu de mal à me procurer des BD sur Limoges.
Je comprends.
Je fais malheureusement appel à Internet, ce qui me dérange un petit peu.
Ouais.
C'est pas trop éco-responsable, mais je suis désolé. Revenons en tous les cas à l'école du crayon de bois. Vous existez depuis 5 ans, vous avez mis en place des ateliers. Est-ce que là, vous êtes complètement complet?
Alors,
vous
ne
pouvez pas faire plus?
Alors, on est complètement complet. Néanmoins, s'il y a des gens qui sont intéressés, je sais qu'il y a des places qui se sont libérées sur le mercredi après-midi. Alors, on est sur c'est soit 14-16h, soit 16h-18h. Je vous encourage à nous envoyer un mail. Alors c'est écoleducrayon@gmail.com, écoleducrayon@gmail.com. Je sais que alors c'est Rémi qui s'en occupe. Je peux faire un petit, je peux expliquer tous les ateliers qu'on fait.
Tu peux, mais fais-toi plaisir. Tout à fait. Super. On a encore 30 minutes à passer ensemble. Tu
parfait.
Sais, donc,
ouais, c'est parfait. Alors, en gros, on fait 8 ateliers par semaine. Donc la plus grosse partie se passe le samedi. Donc le samedi matin, on fait de 10h à midi, on a les 3 ateliers principaux, qu'on va dire. Donc comics, franco-belge et manga. Donc le franco-belge, c'est animé par Eric Albert, qui est un dessinateur franco-belge assez connu dans le coin, qui a sorti une petite BD sur Limoges qui s'appelle Louise Petit Bouchon. Donc si vous êtes fan de BD à l'ancienne, en plus ça se passe à Limoges, donc là on est vraiment sur un truc local. Voilà, si vous aimez bien tout ce qui est Maurice Tillieu, les ricochets, ce genre de choses, voilà, ce sera votre cas, mais vous y allez de ma part, vous serez bien su. Ensuite, il y a Remingo qui lui en fait avait déjà sorti une BD il y a 3 ans de ça qui s'appelait Huge Fighter. Alors lui, c'est notre spécialiste manga qui est aussi en collaboration, mais non, en fait, elle a un atelier à elle aussi, elle s'appelle Marie Portejoie. Et vous la connaissez sans doute, et si vous la connaissez pas, je vous encourage à découvrir son travail. Et puis moi, donc Jérôme Fournol alias Le Double, qui s'occupe du comics. Donc le samedi matin, il y a 3 ateliers, donc 10h midi, et ensuite l'après-midi, on passe à 2 ateliers manga, donc avec Remingo et Marie Portejoie. Donc là, on est sur un 14h-16h. Ensuite, les autres ateliers, c'est le mercredi après-midi de 14h à 16h. Et de 16h à 18h. Oui, pardon, j'ai eu un petit blanc. Et là, donc c'est Rémi qui s'en occupe. Et il y a un dernier atelier le jeudi soir. Donc là, c'est un atelier comics, mais on va dire BD général un petit peu. Et c'est le jeudi soir et c'est de 18 à 20h. Et tout ça se passe à l'espace associatif Charles Sylvestre, ou 40 rue Charles Sylvestre, pour ceux qui connaissent l'espace associatif.
Comment c'est organisé? Voilà. C'est organisé par tranche d'âge? C'est par style, on a vu.
C'est une bonne question. En fait, on a beaucoup réfléchi. Alors moi, il faut savoir que des ateliers, j'en fais depuis plus de 10 ans. J'ai commencé sur Paris avec Chris Mirror, qui avait, alors c'est un dessinateur très underground pour ceux qui connaissent. C'était le collectif Bazooka, si je me souviens bien, avec Kiki Picasso et tout ça. Donc j'ai baigné dans l'underground sévère. Et lui m'a appris toutes les ficelles. Et son grand truc, c'était pas de faire de cours, de grands cours en fait. Son truc, c'était vraiment de s'adapter à chaque personne qu'il avait en face de lui. Et ben nous, on a exactement la même formule. C'est-à-dire que on prend entre 8 et 10 personnes, pas plus. On les a pendant 2 heures et pendant 2 heures, on s'occupe exclusivement de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si vous voulez travailler de l'anatomie, on travaille de l'anatomie. Si vous voulez travailler du storyboard, on travaille du storyboard, de la couleur, enfin tout ce qui touche à la bande dessinée. L'idée de l'association, c'était aussi de pouvoir fournir du matériel. C'est-à-dire que quand vous venez chez nous et que vous vous adhérez à l'année et puis que vous, évidemment, vous payez les 2 heures, enfin, il y a plusieurs formules, il y a abonnement ou ponctuel, mais bon, je redévelopperai après, mais ça, c'est pas plus intéressant. L'idée, c'est vraiment qu'on s'adapte aux personnes qu'on a en face de nous. Déjà, ça établit un dialogue. Et puis surtout, ce qu'on aime aussi, c'est l'émulation, parce que les gens aiment bien regarder ce que font les autres. Et puis ça peut les rendre déjà un peu plus humbles sur ce qu'ils savent faire. Parce que des fois, on a une impression de savoir très très bien faire. Et puis bon, on tombe sur des gens qui sont souvent plus forts. On tombe souvent sur des plus forts que nous. Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre d'eux aussi. Et nous, on est vraiment dans cette un peu de culture d'échange et puis de partage. Voilà, on est des dessinateurs. Ce qui nous a motivés, c'est qu'on était aussi un peu dans notre coin. Et on sait que le dessin, généralement, c'est quelque chose de très solitaire. Et quand on est enfermé dans sa bulle comme ça, souvent on fait des trucs et puis on aimerait bien le montrer. D'avoir un atelier comme ça, ça permet un peu de confronter les regards. De croiser les idées, de s'entraider les uns les autres. Et ça, c'est chouette.
Alors, tu le disais, vous fournissez donc le matériel.
Oui.
Sauf que la BD, on peut utiliser beaucoup de techniques. Ça peut être du feutre, du crayon de couleur, du crayon papier, du bic. Ça peut être numérique.
Oui, tout
donc,
à fait.
Comment vous débrouillez?
On a tout. On a investi, ça fait partie des choses qu'on fait. En fait, chaque intervenant reverse 10% de ce qui touche à l'association. Ça nous permet d'investir dans du matériel. Alors, on a un ordinateur, on a une tablette graphique, on a une table lumineuse pour recopier les dessins, on a pastel, crayon de couleur, aquarelle. L'avantage qu'on a, c'est que nous, en tant que dessinateurs, tous les quatre, on bosse pas de façon, on bosse pas de façon pareille. Et l'idée justement, c'est de confronter un peu tout ce qu'on sait faire. Et nous, à chaque fois qu'on montre comment on fait, on dit bien à la personne de tout tester, parce que vous pouvez être à l'aise avec du Critérium, vous pouvez être à l'aise avec du Bic, mais c'est pas le cas de tout le monde. Faut un peu chercher. Moi, j'ai mis plus de 30 ans à m'apercevoir que l'ancrage c'était pas trop mon truc, jusqu'à ce que je découvre des petits stylos japonais un peu. Stylo, pinceau, et maintenant j'adore ça. Alors que pendant 30 ans, l'ancrage c'était l'enfer pour moi. Quoi. Donc voilà.
Très bien, mais la preuve, ça sert.
Hein, oui, ouais, ça sert. Et ce qui est important, et c'est vrai qu'on le dit pas assez, c'est qu'on apprend aussi nous vachement, en tant que professionnel. Le fait de pratiquer du dessin régulièrement, nous, ça enrichit notre dessin à nous. La confrontation qu'on a avec les enfants, même les adultes, la façon qu'on a de leur enseigner, en fait, c'est un vrai moment de partage. Et nous, on retire beaucoup. C'est-à-dire qu'en 2 heures, moi, je peux très bien passer de dessiner un volcan à dessiner une licorne, de faire un découpage pour un thriller et faire un strip tout kawaii, tout mignon. Et ça, c'est... faut être multitâche, hein, et c'est ça qui est aussi intéressant, mais... Nous, on a appris énormément aussi à leur contact. Et c'est ça qu'on aime aussi, en fait, pour le coup.
Et vous avez une moyenne d'âge de combien pour les enfants qui participent aux ateliers?
Parce que c'est commence,
du 8...
Non, on commence à partir de 10 ans. Parce que, alors, 8 ans... Alors, 8 ans, c'est un peu petit. 2 heures, c'est très long. Après, il y a des ateliers que font les centres culturels très bien, d'ailleurs, où vous avez du dessin pour les petits. D'ailleurs, je vous encourage à regarder ce qu'ils font, parce qu'il y a des très bons intervenants là-bas aussi. Et nous, non, on prend à partir de 10 ans. Et puis après, je crois que le plus vieux qu'on a, il doit avoir la soixantaine.
D'accord, ok. Donc c'est ouvert.
Je peux pas préciser son âge parce qu'on a une clause de confidentialité.
Ok. Voilà. Donc, c'est vrai que lorsque l'on parle d'atelier, on est souvent axé sur des adolescents ou des petits. Alors que c'est vrai que si j'ai envie de prendre des cours de BD, je peux venir. Quoi.
Oui, vous pouvez venir. Et puis encore une fois, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez venir avec votre projet. Et puis nous, on s'y attellera de façon à vous faire sortir le meilleur de ce que vous pouvez faire, en tout cas.
Puis de dire quelque chose d'intéressant de travailler avec les enfants, c'est que eux ne sont pas inspirés, n'ont pas lu beaucoup de BD. Il y a un côté très naïf et très créateur.
Alors c'est tout l'intérêt de à partir de 10 ans, parce qu'à partir de 10 ans, je pense qu'on les enfants sont dans une recherche de dessin un petit peu plus construit.
Oui.
C'est-à-dire que jusqu'à 8 ans pour les enfants qu'on croise, parce que ça nous arrive d'en croiser des plus petits, c'est ça qui est bien aussi. Hein. Ils sont dans une espèce d'immédiateté que nous on n'a pas. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas peur. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'eux, ils n'ont pas peur. Eux, ils vont y aller. Eux, que la proportion soit de traviole, ça les dérange pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est de raconter une histoire. Et ça, souvent, nous, en tant qu'adultes, on l'oublie. On est beaucoup trop, peut-être, effectivement, dans le côté technique, à se dire, mince, là, ça va pas fonctionner, alors que finalement, faut trouver un mélange entre les deux, je pense. Mais on cherche encore, hein. c'est tout l'intérêt. Si on avait trouvé tout de suite, ce serait pas intéressant.
Bah, j'imagine. Ouais. En 5 ans, justement, est-ce qu'il y a des gens qui participent à l'atelier, qui sont fidèles depuis la première année, ont grandi, qui s'épanouissent en BD?
On en a une, la petite Candy, qui est maintenant à Angoulême, qui fait ses études à Angoulême. Je me souviens de Gabriel aussi, qui était là depuis le début. Alors, c'est des gamins pour la plupart que moi-même je suivais avant, parce que je fais aussi des ateliers au centre culturel. Je sais que Gabriel, je le suis depuis presque 10 ans. Et oui, il a pris un level complètement fou. Enfin, moi, il fait des trucs que je suis incapable de faire maintenant. Et puis on a gardé le contact, parce que régulièrement, sur Instagram, je regarde ses productions, il regarde les miennes, et puis voilà, on échange régulièrement. On essaie toujours d'assurer aussi un peu le service après-vente. Il y a des gamins, effectivement, on sait qu'ils ont un truc qui fait qu'il faut qu'ils persistent là-dedans, ouais. Parce qu'il y a quelque chose. Candy, par exemple, c'était évident. Voilà, c'est dans ses tripes. Il y a des gamins comme ça, quand vous les croisez, vous savez que ça va être ça et pas autre chose, quoi. Puis les autres, c'est juste qu'ils ont envie à un moment de faire du dessin, juste pour le plaisir de faire du dessin, apprendre à faire des belles illustrations, ce genre de choses. On a de tout.
Effectivement, il y a des gens doués, il y a des gens qui apprennent, puisqu'il ne faut pas oublier que le dessin peut s'apprendre aussi, c'est une technique. Et après, il y a le don qui fait qu'on arrive à...
Je pense qu'il y a beaucoup. Alors, le don, on peut en parler. Il y a le don, il n'y a pas le don, il y a le travail. Enfin, je pense qu'il y a le travail. Enfin, il y a vraiment le travail. Moi,
ce que j'appelle le don, c'est tout simplement, enfin, c'est pas un don, c'est une facilité tout simplement à reproduire d'un point de vue cérébral ce qui se passe dans la tête, dans la main.
C'est ça. Non, mais oui, c'est-à-dire que... Mais ça, c'est marrant parce que moi, par exemple, il y a peut-être 2 ans, ce que j'avais en tête, j'arrivais pas à le reproduire véritablement comme je l'avais. Maintenant.
Et donc ça fait 30 ans que tu fais ça.
Mais ouais. En vrai, ça fait 40 ans. pour dire la vérité. Mais je crois que c'est Picasso qui disait ça. Quand il faisait un dessin rapido, les types lui disaient, oh, vous l'avez fait en 2 minutes. Et non, ça m'a pris 60 ans à faire ça. Enfin, voilà. Et là, on est vraiment sur la même démarche. Moi, j'ai pas fini d'apprendre et mon dessin s'enrichit encore. Je dessinais pas comme je dessinais l'année dernière. Vraiment, il y a une évolution qui se fait. Alors par la pratique, par l'envie. Après, on baigne dedans, donc forcément, ça, on produit plus vite. Mais oui, ça évolue sans arrêt. Même les gens là qu'on croise depuis 5 ans, leur dessin a évolué de façon folle. Après, en dessin, c'est un truc d'acharné. On va pas se mentir. Hein. Si vous faites ça par-dessus la jambe, en croyant que vous allez sortir un truc direct. Celui qui vous vend une méthode comme ça, il se moque de vous, parce que là, clairement, non, va falloir cravacher, va falloir gommer, va falloir refaire. Là, je fais des ateliers en ce moment pour des gamins qui découvrent la bande dessinée. Bah, y en a beaucoup, ils font de la copie. C'est-à-dire que quand vous regardez un dessin, et moi, c'était le même réflexe que j'avais quand j'étais petit, quand je le regardais, je me disais, mais le mec dessine trop bien, il fait l'ancrage, machin. Mais ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que vous voyez pas les crayonnés qu'il y a avant. Il n'y a pas les coups de gomme, il n'y a pas tout ce qu'il y a.
Oui, c'est le dessin.
Et si vous avez l'occasion, je vous y invite, parce que c'est pas très loin, d'aller à Angoulême visiter le musée de la bande dessinée, vous allez voir des planches d'Hergé où il y a carrément des gros pâtés. Et évidemment, quand vous le voyez dans l'album, ça a été corrigé, c'est tout propre, mais non, il a gommé, il a tracé. Franquin, ses planches sont dégueulasses, enfin, c'est une horreur. Enfin, il y a plein de choses qui fait. Vous voyez un produit fini, dites-vous toujours que derrière, il y a énormément de travail.
Y a-t-il quelque chose qui est le plus complexe à dessiner? Je pense aux mains, aux pieds, tu vois, quelque chose qui est assez pénible à dessiner.
Non, mais on a tous notre kryptonite en dessin.
Alors toi, c'est quoi, par exemple?
Moi, pendant longtemps, ça a été les chevaux.
Les chevaux?
Ah, les pattes arrière de chevaux, c'est je ne comprends toujours pas.
Qui sont à peu près la même chez une vache.
Il y a un truc, il y a une espèce de dynamisme qui est très bizarre. Alors j'ai creusé, hein, il a fallu que je fasse les squelettes de chevaux pour comprendre comment ça fonctionnait. Et puis j'ai eu 2 filles. Et on m'a commandé régulièrement pendant bientôt 5 ans des licornes régulièrement, et maintenant je suis imbattable.
D'accord, ok. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un point commun en l'occurrence, c'est très personnel sur la difficulté à dessiner, à réaliser un dessin.
Les mains, je pense que c'est un truc qu'on me demande souvent.
C'est assez récurrent.
Oui, c'est récurrent, et souvent ce qu'on voit, et c'est ça qui est assez marrant. D'ailleurs, si nos auditeurs nous écoutent et qu'ils viennent nous voir et qu'ils viennent nous montrer des dessins, si vos personnages ont les mains dans les poches et qu'on voit pas leurs pieds, clairement c'est que vous savez pas faire les mains, et c'est pas grave. C'est très malin de votre part de les mettre dans le dos.
Ouais.
Mais oui, souvent, c'est ça. On est sur des problèmes de main et des problèmes aussi de proportion. Voilà, c'est ce qui pêche un peu. Mais tout ça, ça se travaille. Alors, ça passe aussi par la copie, on ne va pas se mentir.
Bien sûr.
Il faut regarder ce que font les plus grands pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, bah, trouver son style. C'est ce qui prend aussi le plus de temps, je pense.
Bah déjà, réussir à reproduire un dessin identique,
rien que ça, déjà, c'est agréable.
Exactement. Alors, revenons justement donc, à l'école du crayon de bois, à tous ces animateurs donc, qui vous encadrent durant ces ateliers, puisque vous êtes dessinateur et donc vous faites, chacun d'entre vous, des bandes dessinées.
Exactement.
Et ça, c'est très bien. Les projets rapides de tes collègues.
Alors, j'ai parlé du projet d'Éric Albert donc, qui est sorti, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, parce que pour le coup, il est très très bien distribué. Donc, c'est chez le Lombec. Donc c'est Louise Petit-Bouchon, donc c'est l'aventure d'une inspectrice dans Limoges dans les années 50-60. Au scénario, c'est Jean Desplais, le grand spécialiste de Jack Kirby en France, qui est chez nous. Je tiens à le signaler quand même. Donc ça c'est pour Éric Albert. Et puis il a fait d'autres albums donc chez Delcourt. Alors après vous tapez sur internet et vous trouverez toute la production qu'il fait.
Je mettrai les liens également sur le
voilà, scénario. Voilà, j'enverrai tout ça. Il y a Rémi. Donc alias Remingo, qui lui va sortir une bande dessinée, donc je pense que normalement c'est pour le mois d'avril, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Cléo. Il avait fait un financement participatif. Alors c'est une BD plutôt jeunesse. La BD qu'il avait fait avant n'a rien à voir avec ce qu'il a fait là. Là on était dans du gros trash avant et c'était un combat entre une grosse dame et la mort et une vieille dame et du caca. Et là on n'est plus du tout dans la même chose. Rémi s'est assagi. Et donc il a fait une très belle bande dessinée jeunesse. Alors pour l'avoir vu faire, pour avoir suivi le projet, je peux vous dire que ça va être un vrai bijou. En plus c'est imprimé en local parce qu'on essaie aussi de faire tourner un peu le local parce qu'on pense que c'est important.
Qui est-ce qui imprime ça du coup?
C'est à Tulle, alors j'ai plus le nom.
D'accord, ok.
C'est à Tulle, j'ai plus le nom mais apparemment ils sont très bien. On a vraiment hâte de voir le bouquin fini. C'est tout travaillé à la plume, donc en gros c'est l'histoire initiatique d'un petit chat qui se perd de chez lui. Alors, vous voyez, on n'est pas du tout dans la même ambiance que la dernière fois.
Effectivement.
On est sur des trucs vraiment magnifiques. On est sur de l'aquarelle. En plus, il y a des petits passages qui se passent à Limoges, dont une vue magnifique en double page de la ville de Limoges. Et je peux vous dire qu'il est encore en train de faire des immeubles. Donc, il n'en peut plus.
Pourtant, il y en a beaucoup.
Je peux vous dire qu'il a fait un truc assez. Non, mais je pense que même si vous n'êtes pas très jeunesse, je pense que vous allez avoir le coup de cœur parce que c'est vraiment un truc. Et puis il l'a pensé vraiment comme un récit initiatique, c'est sans parole, ce qui est assez couillu, hein, on va pas se cacher, une BD sans parole, c'est une contrainte en plus.
Ouais.
Donc on est vraiment sur un petit récit initiatique, donc c'est à lire avec les enfants, les parents, à vous d'interpréter aussi, voilà. Donc je vous dis, ça sort au mois d'avril, voilà.
Okay.
Et puis moi, en ce qui me concerne, actuellement je fais un financement sur Ulule, pour une bande dessinée qui s'appelle Frisco's Invaders from Space. Là, on est sur du gros comics bien lourd, donc c'est le tome 3. Mais vous pouvez sur Ulule commander les deux premiers tomes. On a fait un pack spécial, alors il n'y en a plus beaucoup. Sinon, il y en a encore dispo au Eldogo ou à Limoges pour ceux qui cherchent les premiers tomes. Alors là, on est sur du gros comics, ambiance fin du monde, série Z. Voilà, allez voir sur Ulule si ça vous parle. C'est ambiance extraterrestre, heavy metal. Le héros, il est en béquille, mais il met des coups de béquille. Il y a un sniper qui adore les mouettes. Il y a une critique aussi. Je vous explique vite fait. En gros, c'est la fin du monde qui est arrivée en 2012, comme c'était prévu. Désolé,
oui,
nous on a respecté
oui.
le calendrier. La mer a monté et il reste plus qu'une île. Elle s'appelle Frisco's. Et sur cette île, en fait, il y a ce qu'on appelle les Patrol Boys qui passent leur temps à shooter les migrants qui débarquent. Alors, ce qui est bien, c'est que cette BD, on l'a commencé il y a 6 ans. Alors, c'est des gros tomes qui font 100 pages. Hein, au prix au kilo, on est pas mal. Et voilà, c'est un gros délire qu'on se fait. On est tous les deux sur le projet. Au début, on avait un éditeur, mais bon, ça n'a pas. L'éditeur a coulé, ce qui fait qu'on n'a pas pu continuer avec lui. Mais on est des mecs têtus et on croit à notre projet, donc on l'a fait. Et puis il s'avère que, avec le temps, toutes ces questions qu'on soulève un peu dans la BD, elles sont maintenant de l'actualité. Donc on surfe sur la vague.
Oui,
comme dirait l'autre.
Ouais.
Malheureusement, oui. Alors c'est pas, on n'est pas des Nostradamus non plus, mais voilà, il y a tout un truc qui vous parlera sans doute, une ambiance fin du monde qui est assez qui est assez d'actualité, je trouve.
Très bien. Eh bien voilà, en tous les cas, les quatre réunis derrière donc ces projets personnels et l'école du crayon de bois réunie également derrière donc une BD qui s'appelle Mine de rien.
Et oui.
Alors est-ce que tu peux me parler de la réalisation de cette de ce livre, de cette BD en l'occurrence?
On peut même dire que c'est un petit fanzine qu'on a réalisé. Alors donc, vous vous doutez bien, ça fait 5 ans qu'on fait des ateliers BD, ça fait 5 ans qu'on produit des bandes dessinées, et plus ça va, et plus on arrive devant des résultats qui sont quand même pas mal.
Alors, je feuillette.
Il est en train de feuilleter.
Exactement, je regarde.
Il est en train de regarder et c'est pas dégueu.
Non, effectivement.
On est d'accord.
Et puis, donc c'est un fanzine
qui
regroupe tout le travail que vous avez fait durant les ateliers.
Voilà, alors pour le coup, on avait monté ce projet en disant que bah, voilà, on voulait des histoires. Les gens ont fait plein de récits. On a essayé de ne pas censurer. On a essayé d'être le plus large possible. On a même tenté des expériences graphiques assez nouvelles. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, on a fait du jeu de rôle en bande dessinée. Donc en gros, la première histoire, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Arena.
Oui.
Et Arena, en fait, c'est une vraie arène, en fait, avec 4 personnages qui ont été construits par nos élèves, donc ils sont 4. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a joué la partie en jeu de rôle, d'accord, tout en faisant le storyboard à côté.
Okay.
Avec des vrais points de vie, avec des vrais coups de vis. Ce qui fait que, en fait, on a un scénario qui est totalement aléatoire, ce qui fait que vous serez incapable de deviner parce que, en fait, vous avez l'archétype du beau gosse, parce qu'il y a un gars qui dessinait manga, qui dessinait plutôt pas mal. Et ce type-là, il lui arrive quelque chose d'assez grave assez rapidement. Alors que sur le papier, quand vous le regardez, vous dites que non, ça va bien se passer, il y a de grandes chances que ça soit lui le héros. Et non, que nenni. Justement, c'est ça qu'on a trouvé très chouette d'ailleurs. Il y a un autre combat un petit peu plus loin où je me bats contre le petit Raphaël qui est un peu plus grand maintenant et à qui je brise les vertèbres à la fin. Hop, spoil. Mais voilà, tout ça a été joué en jeu de rôle et ça a rendu le côté un peu plus fun de la BD justement parce qu'il y a eu toute cette partie scénario qui était imprévisible et qui l'a été, c'est-à-dire que on a vraiment joué le truc avec les réussites critiques, les échecs critiques. Donc des fois, ça donne des résultats assez drôles et surtout inattendus. Et puis pour le reste, c'est des gens qui nous ont proposé des petites histoires. Il y a une histoire de fantôme, il y a plein de choses. Vraiment, c'est très large.
Ouais, c'est très large parce qu'il y a même dans le dessin.
Tous les
styles, quoi. C'est super,
ça qui,
ouais.
C'est ça qui est intéressant parce que pour le coup, c'est pas que marqué manga. Il y a vraiment de tout. Il y a des dessins manga dans la BD Arena qui côtoient des dessins un peu comics. Enfin, on est vraiment sur un espèce de melting pot qui pour le coup fonctionne bien. Et on l'a appelé mine de rien parce que déjà il y a le mot mine et on trouvait le jeu de mots sympa et que mine de rien on l'a trouvé qu'il était pas mal.
Ça doit déconner pendant les apéros.
l'école
du crayon de bois, je vous le dis. École du crayon de bois.com, vous avez un blog également.
On a un blog, on a une page Facebook et on a un Instagram.
Voilà.
École du crayon, allez nous liker et puis vous pourrez voir en fait régulièrement on met un peu ce qui est fait par nos élèves parce qu'on est très fiers de ce qu'ils font.
Et la ville de Limoges a également collaboré avec vous pour la publication d'une plaquette.
Exactement, on a été contacté donc par le conseil municipal des enfants concernant un projet pour les primaires sur le harcèlement scolaire. Donc c'est moi qui ai suivi ce projet. On a fait en tout 6 réunions avec les enfants. Et l'idée en fait c'était que eux s'expriment. Moi ce qui m'a plu dans ce projet c'était que justement et c'était mon envie de pas trahir leurs pensées à eux. Donc on a fait un dépliant en fait, voilà, donc qui parle du harcèlement, comment l'éviter. Et comme ça a bien marché, on a aussi fait des slogans et on a fait 4 affiches. Et on est très content parce que pour le coup, la mairie, en fait, on a imprimé, je crois, plus de 20 000. Et il y en a, vous en avez normalement dans toutes les primaires. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, la prochaine fois que je me rendrai dans les petites classes, j'essaierai d'observer pour voir si votre affiche est présente.
Ouais.
Et si oui, du coup, je l'observerai. L'école du crayon de bois, vous l'avez compris, donc c'est beaucoup, beaucoup de choses qui, entre autres, sont réunies à travers donc, eh bien, ce fanzine nommé Mine de rien, à travers donc, le travail de chacun d'entre vous, donc des dessinateurs qui se montrent sur des BD, bien entendu. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas peut-être organiser une exposition regroupant tous les travaux réalisés en 5 ans, les plus beaux dessins, voilà. Est-ce qu'on pouvait pas se réunir pour fêter les 5 ans
c'est une piste. Alors le truc c'est qu'on n'est pas beaucoup dans cet asso, en tout cas dans tout ce qui est administratif. Donc on gère énormément de choses et c'est vrai qu'organiser quelque chose comme ça, ça prend du temps. Il faut savoir, et chose que je n'ai pas dit mais je vais en profiter pour le dire maintenant, c'est qu'on fait aussi des interventions scolaires dans le cadre du conseil municipal. Mais là, par exemple, au mois de au mois de mars, nous serons au collège Renoir pour un projet BD autour du petit chaperon rouge. On sera à Fête des Livres aussi à Saint-Julien au mois de juin, je crois. Enfin bref, on fait aussi des interventions scolaires avec des classes. Parce que ça fait partie aussi de notre approche, c'est-à-dire qu'on pense que la bande dessinée, elle peut vulgariser énormément de choses, dont l'enseignement, sans doute. En plus, c'est une tendance qui bouge pas mal, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de médias. Vous avez la revue dessinée, par exemple, qui fait énormément de journalisme en bande dessinée. C'est un truc qui plaît. C'est vrai que la vulgarisation en bande dessinée, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, tout ce qui est data-vision. Et voilà. Donc ouais, ce serait bien de fêter les 5 ans. Mais on n'a pas le temps.
Exactement.
Bah, mais c'est à réfléchir et à faire. Ça nous tenterait bien. Mais encore, faut trouver la structure, faut trouver l'endroit, enfin voilà.
Ok.
C'est un peu compliqué.
Eh bien, c'est parfait. 17h55, je vais te libérer. Vous aurez l'occasion de réécouter cette interview et de retrouver donc tous les liens utiles que l'on a donnés durant donc cette dernière demi-heure et durant cette interview. Belle soirée. À bientôt.
Merci beaucoup.
Salut.
Vaut mieux être sourd que d'entendre ça.